Évangile selon Matthieu, chapitre 18, au verset 21. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit, « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant, « Seigneur, use de patience envers moi, et je te payerai tout. » Et le seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disant, « Paye si tu dois quelque chose. » Celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant, « Use de patience envers moi, et je te payerai. » Et il ne voulut pas, mais il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or, ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés et s'en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit, « Méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ?» Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi, mon Père Céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun à son frère.
On a aussi appelé l'évangile, selon Matthieu, l'évangile dispensationnel. L'évangile dispensationnel, tandis que dans l'évangile selon Marc, on a davantage les événements du temps de notre Seigneur rapportés selon un ordre historique et dans l'évangile selon Luc, selon un ordre moral. Dans l'évangile selon Matthieu, ce sont les diverses dispensations de Dieu qui nous sont présentées. Voilà pourquoi, tandis que nous sommes occupés du royaume et que nous célébrons la gloire de ce royaume, comme nous allons le faire dans ce cantique 38, eh bien, il nous est parlé dans cet évangile également de l'Église, et chacun sait que c'est dans cet évangile que pour la première fois il est parlé de l'Assemblée ou de l'Église. Au chapitre 16e, le fondement est pour ainsi dire établi, le fondement de l'Église, quand le Seigneur Jésus dit « Sur ce roc, je bâtirai mon Église, mon Assemblée, ce roc, c'est-à-dire le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et au chapitre 18e, les versets qui précèdent notre lecture, nous avons alors la marche pratique de cette assemblée. Nous avons là le tableau d'une assemblée locale, représentée même seulement par 2 frères. Eh bien, le Seigneur Jésus les assure de sa présence, dans la mesure où c'est lui-même qui nous attire et qui nous rassemble. Donc, l'Église est mentionnée tout d'abord en Matthieu et en des passages que nous ne trouvons pas dans les autres évangiles. C'est donc l'évangile dispensationnel. Il n'est pas seulement parlé des voies de Dieu à l'égard de son peuple terrestre, mais la création, l'apparition d'un peuple céleste nous est mentionné dans cet évangile et pas dans les autres. Sur ce roc, le rocher des siècles, sur le Fils du Dieu vivant, eh bien, dit le Seigneur, je bâtirai mon assemblée. Et l'on comprend que ce soit dans cet évangile que la notion de royaume des cieux revêt une importance particulière, puisque l'expression même ne se trouve pas dans les autres évangiles. Le royaume des cieux. Et après avoir parlé de ces premières paraboles du chapitre 13e, comme notre frère nous l'a dit dans le résumé du début de la réunion, eh bien, voici, nous arrivons à une autre, comme à une, nous allions dire une huitième parabole. C'est pas juste, chers amis, parce que la parabole du semeur n'est pas une parabole du royaume des cieux. Elle est, comme on l'a entendu, une parabole introductive, alors aux autres paraboles de ce chapitre, c'est-à-dire les six paraboles du royaume des cieux que nous avons jusqu'à la fin du chapitre. Alors, nous avons comme une septième parabole dans ce que nous avons lu. Et le sujet est extrêmement important, c'est le sujet du pardon de Dieu que nous avons à considérer sous deux angles différents. Tout d'abord, un angle pratique, très pratique, chers amis, et c'est certes avec beaucoup de modestie et d'humilité que nous devons en parler, parce que nous sommes loin de réaliser ce pardon de Dieu à l'égard de quiconque, à l'égard de nos frères en particulier. Ainsi donc, Pierre s'approche du Seigneur et lui dit, « Seigneur, combien de fois mon père péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Sera jusqu'à 7 fois, Jésus lui dit, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi donc, une question est posée, jusqu'à combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Alors, nous voyons la mention du chiffre 7, il n'est pas parlé de 5, de 6 ou de 8, il est parlé de 7 fois, certainement que l'Esprit de Dieu a une intention en mentionnant ce chiffre 7, et puis un petit peu plus loin, le chiffre 70, et encore 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que nous sommes exhortés à pardonner toujours, toutes les fois. Une occasion se présente, un grief, nous estimons avoir été l'objet d'un grief, eh bien, nous sommes amenés à régler cette affaire et à pardonner si nous pensons être l'objet de ce grief. Nous devons donc pardonner toujours. C'est ce que exprime ce chiffre 7, qui n'est pas employé certainement sans raison ici même. Alors, tout un sujet très pratique est introduit, le sujet du pardon fraternel, interfraternel, dont nous aurons sans doute à parler. D'une part, nous avons l'immensité de la grâce de Dieu qui est représentée. Dieu est représenté par un roi, c'est une parabole du royaume des cieux. Il nous est dit alors, à la suite, au verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi, qui voulut compter avec ses esclaves, et quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Dieu est donc un roi, il est le roi. Et qu'est-ce qu'il n'a pas manifesté à notre égard, nous, de misérables esclaves, des pécheurs, et même morts dans nos fautes et dans nos péchés. Faut-il que cela soit réel pour que nous ayons cet enseignement deux fois? Dans l'Épître aux Éphésiens, dans l'Épître aux Colossiens, nous étions morts dans nos fautes et nous étions vraiment de grands pécheurs. Et Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a pardonnés. Nous avons, dans cette parabole, le tableau de l'immensité du pardon de Dieu à notre égard. Puis d'un autre côté, voici que moi, qui connaît un tel pardon de la part de Dieu, voici que j'estime qu'un frère, une sœur m'a fait quelque tort, et alors ce que la parole de Dieu m'enseigne, c'est que j'ai à pardonner. Il n'est pas dit pardonner n'importe comment, mais reconnaissant la chose, alors pardonner. Nous avons à pardonner. Et on voit combien, d'une part, le roi lui a pardonné, il est même dit qu'il a été ému de compassion, il a pardonné, un pardon immense, puis maintenant, d'un autre côté, moi, objet d'un tel pardon, je ne veux pas accorder mon pardon pour une petite chose, c'est très petit à côté des offenses que nous avons faites à notre Dieu, le Dieu saint, le Dieu juste, c'est très petit, et nous ne voulons pas accorder notre pardon. C'est là l'enseignement pratique de cette parabole. Mais il y a un autre côté de la vérité, donc ce côté pratique de la vérité. D'un autre côté, il y a l'enseignement doctrinal concernant le gouvernement de Dieu à l'égard du peuple d'Israël et à l'égard des autres peuples qui sont les gentils, les nations. Le peuple d'Israël, que n'a-t-il pas rencontré auprès de Dieu comme pardon, comme support, comme miséricorde? Nous pouvons lire de nombreux passages dans l'Ancien Testament montrant quel fut l'immense pardon de Dieu à l'égard de ce peuple. Vraiment, Dieu, le roi, combien de fois n'a-t-il pas pardonné à son peuple, dont le prophète Jérémie dit ceci: « Ce peuple est un peuple indocile et rebelle. » Il ne dit même pas « Craignons l'Éternel ». Jérémie 5, « Craignons l'Éternel ». Ce Dieu qui nous comble de bénédictions, dit le prophète, eh bien, ils n'ont même pas l'idée, au moins cette idée-là, de craindre l'Éternel. Ce passage de Jérémie 5 nous montre, entre beaucoup d'autres, l'état effrayant, l'état moral de ce peuple. Verset 23, Jérémie 5, verset 23, « Ce peuple-ci a un cœur indocile et rebelle. » Ils se sont détournés, ils s'en sont allés, ils n'ont pas dit dans leur cœur « Craignons pourtant l'Éternel, notre Dieu qui donne les pluies en leur temps, la pluie de la première et la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison, et qui nous garde les semaines ordonnées de la moisson. » Année après année, nous sommes comblés par notre Dieu, et voici, on ne disait même pas « Craignons l'Éternel qui nous bénit régulièrement d'une semblable manière. » Voilà l'état du peuple. Et combien de fois est-ce que Dieu, tel que le roi, n'a pas supporté ce peuple? Combien de fois a-t-il supporté ce peuple? Combien de fois a-t-il pardonné? Selon ce que dit le prophète Ésaïe, non seulement Dieu pardonne, mais il pardonne abondamment. Et le prophète Daniel dira, « À toi, ô Dieu, sont les pardons et les compassions. » En général, le mot « pardon » ne s'emploie pas au pluriel. On parle du pardon, le pardon de Dieu. Daniel, pour montrer l'immensité de ce pardon, dit, « À toi, ô Dieu, pas seulement est le pardon, mais sont les pardons et les compassions. » Dieu donc a pardonné abondamment, comme ce roi de la parabole, étant ému de compassion, il a pardonné abondamment à son peuple. Et quel fut alors le comportement des Juifs vis-à-vis des nations? Les Juifs, c'était un peuple, bon, un peuple appelé de Dieu, mis à part pour Dieu, c'est vrai. Mais à côté d'eux, il y avait des peuples, il y avait beaucoup de peuples. Ces peuples, les nations ou les gentils, étaient là. Quel fut le comportement? Quel fut l'état d'esprit, l'attitude des enfants, des Juifs, comme le livre des Actes nous le montre, vis-à-vis des nations? Ils ont été véritablement impitoyables. Dieu a pardonné aux enfants de son peuple abondamment. Ils pardonnent abondamment, et puis alors, eux-mêmes, vis-à-vis des gentils, est-ce qu'ils se sont réjouis de ce que les gentils étaient aussi concernés par la grâce de Dieu, que aussi, eux aussi, recevraient le pardon de Dieu? Nous ne citons qu'un passage, sans vouloir prolonger, dans la première épître aux Thessaloniciens, que ne nous est-il pas dit de cette attitude des Juifs? 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, verset 14, « Vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des assemblées de Dieu qui sont dans la Judée, dans le Christ Jésus, car vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes choses qu'elles aussi ont souffert de la part des Juifs qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont chassés par la persécution et qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont opposés à tous les hommes, nous empêchant de parler aux nations afin qu'elles soient sauvées. Pour combler toujours la mesure de leur péché, mais la colère est venue sur eux au dernier terme, et nous aurons l'occasion de voir que cela s'est réalisé pour les enfants d'Israël, selon même les derniers termes de la parabole de notre chapitre 18e. Les Juifs ont été très souvent les objets du pardon de Dieu. Quant à eux-mêmes, quant à ce pardon accordé aussi aux gentils, ils n'ont jamais pu accepter, tolérer la moindre pensée d'un pardon de Dieu à l'égard des nations. Tant ils étaient imbus de cette pensée, nous, nous sommes le peuple de Dieu, les autres sont rien. Nous, nous sommes le peuple de Dieu. Les nations étaient des peuples à côté d'un peuple qui s'appelait le peuple d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils étaient des peuples à côté d'un peuple, il est dit dans notre parabole, un esclave qui était esclave avec lui et qui avait une toute petite dette à payer, une toute petite dette. Et jamais l'esclave qui avait reçu une si grande remise de son immense dette, jamais il n'a voulu lui accorder, cependant il n'a jamais voulu lui accorder que d'attendre patiemment que cette petite dette soit réglée. Il a pris, s'est emparé de lui, il l'a jeté en prison. Eh bien voilà l'attitude des Juifs vis-à-vis des gentils. C'est là l'enseignement de cette parabole, la septième parabole du royaume des cieux. Donc un enseignement très pratique, et nous aurons l'occasion d'en parler, et cet enseignement doctrinal, le gouvernement de Dieu à l'égard de son peuple et à l'égard des gentils. C'est là tout l'enseignement de cette parabole que l'on appelle, bien justement, la parabole du serviteur impitoyable.
Quand on regarde dans ce chapitre, quel est l'enseignement du Seigneur, on s'aperçoit qu'au début du chapitre, quand la question est « qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?», le début du chapitre va nous parler de, quand le Seigneur va prendre un enfant, le caractère de ceux qui sont dans le royaume des cieux, c'est l'humilité, c'est la simplicité d'un enfant. Et puis il va parler des dangers qu'il y aura pour eux, les scandales, plus loin le mépris qu'on peut avoir pour cela. Et puis au verset 15, quand il va, juste avant de parler de l'assemblée, de l'assemblée locale, il va parler des conflits qu'il peut y avoir entre frères. Si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le. Alors ça, c'est le travail que tu dois faire vis-à-vis de ton frère. Et il nous parle de douceur, et il nous parle de patience. Et puis dans ce paragraphe qu'on a lu, il nous parle donc du pardon. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, il y a un passage un peu parallèle. C'est les versets 3 et 4 du chapitre 17 de Luc. Prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et si sept fois le jour il pêche contre toi et que sept fois il retourne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Donc il y a quelqu'un qui nous fait du tort et quelqu'un qui se repent. Et il y a un pardon conditionné un peu par la repentance. Ça veut dire que sept fois le jour, sans arrêt, eh bien, tu vas retrouver tes relations avec ton frère. Il vient vers toi, tu le reprends, il se repent, il regrette, et tu retrouves tes relations avec lui. Mais dans le chapitre qu'on a, il y a quelque chose de plus. La conclusion de ce paragraphe, c'est si vous ne vous pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère. Dans le début, dans la question de Pierre, Pierre dit « Combien de fois mon père péchera-t-il contre moi ?» Et le Seigneur répond sans faire du tout allusion à la repentance de celui qui a péché. Parce que le problème n'est pas dans celui qui a péché, mais dans ton cœur, dans mon cœur. Comment je vais réagir vis-à-vis de celui qui m'a fait du tort? Est-ce que dans mon cœur, je vais régler ce problème-là? Est-ce que dans mon cœur, je vais vraiment le pardonner entièrement? Oublier, pardonner comme mon père m'a pardonné. On aura certainement l'occasion d'en redire quelque chose. Alors, la réponse du Seigneur, c'est, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois par jour. Ça fait 490 fois. Si on fait une journée de 15 heures à peu près, c'est déjà une journée à peu près correcte, ça fait à peu près une fois toutes les 2 minutes. Une fois toutes les 2 minutes. Ça veut dire que le travail dans notre cœur, il doit être profond pour que nous arrivions à le réaliser. 70 fois, 7 fois. Une fois toutes les 2 minutes. C'est simplement pour qu'on ait un peu la notion de ce que cela veut dire, pratiquement. Ensuite, quand le roi vient compter avec ses esclaves, il y en a un qui doit 10 000 talents. 10 000 talents. Si on peut encore continuer à faire un peu de calcul, un talent, il paraît que cela vaut 6 000 deniers. Un denier, on le sait par le chapitre 20, c'est une journée de travail. La dette de l'esclave, c'est 60 millions de journées de travail. Autrement dit, plus de 163 000 années de travail. Et quand l'esclave lui dit « Aie patience, et je te paierai tout ce que je te dois », c'est absolument illusoire. Et la dette que nous avons vis-à-vis de notre Dieu, mais cette dette est tellement immense qu'il est absolument impossible de pouvoir répondre à cette dette. C'est absolument quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et s'il n'y avait pas le pardon de Dieu, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, s'il n'y avait pas eu l'œuvre du Seigneur, jamais nous n'aurions pu être pardonnés. Jamais nous n'aurions pu faire le rachat de notre âme. C'est impossible. Et c'est là la notion de cette grande dette que devait cet esclave. Une dette impossible à payer. Alors, de notre côté, la dette que lui devait l'autre esclave, c'était, il lui devait 100 deniers. Ça fait quand même une dette qui est comparativement, par rapport à la dette due au roi, est absolument dérisoire. Mais pour l'esclave, 100 deniers, c'est quand même pas tout à fait rien. C'est 100 jours de travail. Et alors nous, on va mesurer d'une façon mesquine. On dit, bon, pour moi, ça a de l'importance. C'est quelque chose d'important. Et puis on oublie quelle était la dette que nous devions vis-à-vis de Dieu. Que nous sommes l'objet, de la grâce dont nous sommes les objets. Et on perd tout à fait les notions des choses qui sont juste devant notre Dieu, dans la lumière de Dieu. C'est simplement pour que nous fixions un tout petit peu nos idées d'une façon un peu pratique, un peu concrète, pour bien comprendre quelle était la grande dette de cet esclave. 60 millions de journées de travail. Et quelle était la grande grâce de celui qui l'a pardonné. Et quelle était la folie de cet esclave quand il dit « Mais je vais te payer ce que je te dois ». C'était impossible. Il y a un passage pour montrer encore à propos de la dette d'Israël. Alors on peut bien sûr toujours penser d'un côté au côté dispensationnel vis-à-vis d'Israël, puis le côté qui nous concerne. Mais dans le livre d'Esdras, un passage au chapitre 9, au verset 6, quand Esdras prie l'Éternel, et il dit au verset 6, « Mon Dieu, je suis confus, j'ai honte de lever ma face vers toi, ô mon Dieu, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et notre culpe a grandi jusqu'aux cieux. » Une dette, quelque chose qui monte par-dessus nos têtes et qui monte jusqu'aux cieux. Mais une dette qui, en fait, sera payée par notre Seigneur.
Déjà, le Seigneur a touché ce sujet du pardon au chapitre 6 de l'Évangile, quand il enseigne à ses disciples une prière qui se termine, ou à peu près, par verset 12 du chapitre 6, « Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Et puis il ajoute au verset 14, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Alors, le sujet est là présenté d'une manière qui doit parler à la conscience, un peu à l'inverse. Il y a d'abord le pardon que nous avons à accorder, nous, en vue de celui que Dieu accordera. Ici, dans notre parabole, c'est l'inverse. Il y a cet immense pardon, et puis la conséquence, alors, et on peut rapprocher de ce que nous avons en Éphésiens chapitre 4, à la fin du chapitre, alors, ce que nous avons à réaliser dans la période chrétienne. Il est dit, verset 32, à la fin du chapitre 4 des Éphésiens, « Vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. » Et dans le chapitre, on a donc remonté un petit peu plus haut, et il semble bien qu'il y a un lien entre le verset 21 et le verset 15. Il nous était dit au verset 15, « Si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. » Il y a donc, dirions aujourd'hui, un problème entre ces deux frères. Il a péché, il y a donc un pardon à lui accorder. Et là, nous ne sommes pas appelés à attendre que ce frère vienne pour demander pardon, mais à aller vers lui. Et voilà un chemin que nous n'utilisons pas toujours, mais parfois, n'est-ce pas, nous disons « Oh, mais c'est à lui à venir me voir, c'est lui qui est coupable, c'est lui qui a dit ceci, qui a fait cela, je l'attends, je suis prêt à lui pardonner, mais qu'il vienne. » Eh bien, ce n'est pas le chemin qui nous est enseigné là. Va, reprends-le, ou la note nous dit « convainc-le ». Et sans doute, dans cette expression, nous avons aussi un pardon à réaliser, être prêt dans notre cœur quand nous faisons cette démarche à gagner, puisqu'il est dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alors, au verset 21, Pierre prend la parole et apparemment se réfère à ce que le Seigneur a dit. Peut-être pour en limiter l'application, pour dire, et nous sommes souvent ainsi, on dit oui, mais là, alors ça dépasserait les bornes, cette fois c'est déjà énorme, n'est-ce pas, il ne faut pas trop m'en demander. Et est-ce que cette fois c'est bien? Voilà, donne-moi une limite. Nous attendons quelquefois que Dieu nous fixe des limites, nous donne, pour ainsi dire, des bornes, une. Voilà, nous sommes dans un certain cadre et au-delà, alors, voilà, nous sommes libres d'agir d'une autre manière. Mais le Seigneur veut vraiment toucher la conscience et là, alors, il nous amène à l'exemple suprême. Et en regardant cet exemple suprême, nous serons toujours mis à notre petite place humble, apprenant la grâce dont nous sommes tellement les objets. Et ici, le Seigneur, comme dans chaque parabole, se présente lui-même. Dans la parabole du semeur, c'est lui le semeur. Dans la parabole de l'ivraie, c'est lui l'homme qui a semé, etc. Et ici, le roi, qui est-ce? C'est bien lui. Alors, le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter. Ah, si Dieu veut compter, alors qu'est-ce que nous devenons à partir du moment où il y a des comptes à rendre? Or, il y a des comptes à rendre. Nous avons besoin de nous en souvenir. Pas seulement l'incrédule qui aura des comptes à rendre, mais nous aurons aussi des comptes à rendre. Il y a un moment dans notre histoire, après notre vie sur la terre, qui correspond au tribunal de Christ et dans lequel, alors, il y aura des comptes. Mais ces comptes, comment se soldent-ils ici, n'est-ce pas? Eh bien, il lui remit la dette, et ému de compassion. Et là, nous apprenons, mais nous le savons déjà aujourd'hui, que la dette est remise, que la dette est payée. Nous n'aurons plus devant le tribunal de Christ à répondre d'une dette. Tout a été effacé, expié. La grâce a tout couvert. mais il nous sera présenté l'étendue de notre dette. Et pourquoi cela ? Mais pour que nous ayons une notion de la grâce, pour que nous ayons pour l'éternité le sentiment de cette grâce de Dieu à notre égard. Grâce qui nous a pris si bas pour nous élever si haut. Grâce qui nous a supportés pendant toute notre vie sur la terre. Grâce qui est intervenue dans un mauvais chemin que nous suivions pour nous arrêter. Grâce qui nous a restaurés, qui nous a réappris une leçon que nous avions oubliée. Et l'étendue de cette grâce, voilà, elle nous est figurée par cette somme au-delà de toute limite. Et la grâce de Dieu, elle est au-delà de toute limite. Alors nous avons besoin de nous en souvenir. Et certes, nous n'avons pas étalé nos misères, nos mauvaises pensées, à revenir sans cesse sur le mal, à retourner des choses mauvaises. On ne fait pas étalage de cela, n'est-ce pas ? Mais le rappel à nos cœurs du pardon dont nous avons été les objets nous donnera ce sentiment de la grâce. Nous avons besoin d'avoir toujours présent à la pensée. Et aura un autre effet sur nos cœurs que nous trouvons dans cet épisode de Luc 7, quand le Seigneur a affaire à Simon le pharisien et à cette femme qui est venue, pécheresse, qui est venue pleurer à ses pieds. Et sans doute sera-t-il encore fait allusion à ce récit si instructif et qui se termine comment ? Eh bien, au verset 47, nous remarquons que la femme ne dit rien, mais elle est justifiée par le Seigneur qui parle, pour ainsi dire, par-dessus sa tête et qui s'adresse à Simon et qui dit, voilà, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui il est peu pardonné, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et cette parole du Seigneur, celui à qui il est peu pardonné aime peu, nous ramène à notre parabole. On peut dire que quand l'esclave, le méchant esclave, exige, d'abord quand il s'engage, je te paierai tout, et qu'il a vraiment peu conscience de la dette qui est la sienne. Il n'en a aucune conscience. Il pense pouvoir tout payer. Alors qu'on vient de nous dire à peu près à combien on peut évaluer l'étendue de sa dette. Et puis, son attitude vis-à-vis de l'autre esclave montre aussi qu'il est peu conscient de la dette qu'il avait et du pardon qui lui a été accordé. On réalise donc bien là, n'est-ce pas, que le Seigneur qui connaît nos cœurs nous invite à nous souvenir d'une manière permanente de la grandeur de sa grâce et du pardon dont chacun de nous a été l'objet.
Qui vaut la peine d'être retenu dans les 10 paraboles, il y en a 3 qui commencent par le passé. Le royaume des cieux a été fait semblable. Il y en a 6 qui commencent par le présent. Le royaume des cieux est semblable. Et la dernière, la 10e, c'est au futur. Le royaume des cieux sera fait semblable. Nous n'avons pas trouvé cela nous-mêmes, mais nous faisons appel à la brochure de première valeur du frère William Joseph Lowe, qui a écrit un petit traité anciennement donné pour le salut de Dieu et qui a été réimprimé. Le royaume des cieux. Alors, on peut voir que dans cette manière de présenter, le Seigneur indique déjà des choses très intéressantes. Le royaume des cieux est semblable. On peut dire que c'est un caractère permanent pendant toute l'étendue du royaume. Quand il est dit le royaume des cieux a été fait semblable, il semble bien que c'est un caractère qui a été prédominant au début de cet évangile. Et nous rappelons la première, la 7e et la 10e a été fait semblable. Il est incontestable que le Seigneur peut dire Le royaume des cieux a été fait semblable à l'égard de l'homme qui sème de la bonne semence. Et tout aussitôt a été fait semblable, dès le point de départ, l'ennemi a jeté, livré dans le champ. C'est très clair, nous comprenons bien cela. Dans la septième, c'est la nôtre. Le Seigneur avait prié, c'est une des sept paroles de la croix, en demandant à Dieu de pardonner ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Dans l'étendue, la profondeur de ses souffrances, il pense à ses bourreaux et en demande le pardon. Et en vertu de cette demande du Seigneur, Dieu a accordé un pardon provisoire à ce peuple. Et Pierre, l'apôtre Pierre, dans Acte 3, s'emparant de la promesse du Seigneur, de la demande du Seigneur, pourra dire aux Juifs, parce que leur péché était un péché commis par fierté au fond, le sachant et le voulant, ils ont vu, et moi et mon Père, et ils m'ont haï sans cause. Mais Pierre, se basant sur l'étendue de la grâce de Dieu, peut dire, je sais que vous l'avez fait par ignorance. Et cette mention de Pierre introduit le pardon provisoire que Dieu donne aux Juifs. Et pendant les années qui ont suivi la crucifixion, jusqu'au temps du livre des Actes, et en fait jusqu'au meurtre d'Étienne, Dieu voulait accorder son pardon, voulait pardonner son peuple, à tel point que Étienne voit le Seigneur comme le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, prêt à revenir si Israël s'était repenti, non seulement à l'égard du crime qu'il avait commis, mais en raison du don du Saint-Esprit qu'ils avaient rejeté jusque-là. Vous voyez ? Alors, a été fait semblable, c'est donc la septième. La neuvième, nous disons seulement un mot, c'est au chapitre 22. Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. C'est une pensée non pas tardive dans le cœur de Dieu, mais Dieu avait dans son cœur de faire des noces pour son fils. Lorsque ce peuple s'assemble contre lui, et que nous avons tout ce qui est noté dans le chapitre 21, rejeté quand il vient monter sur le poulain, le petit d'une ânesse, quand le figuier est sans fruit, quand la maison est une caverne de voleurs, alors Dieu, lui, contrairement et au-dessus de cette activité mauvaise de son peuple, Dieu veut faire des noces pour son fils. Et ce n'est pas une pensée tardive, Dieu avait cela dans son cœur. Et il va faire des noces pour son fils, et nous avons, à partir du chapitre 22, un nouveau point de départ, basé sur ce fait que Dieu veut faire des noces pour son fils. Nous n'allons pas entrer dans les détails maintenant, c'est prématuré, mais disons encore un mot sur le chapitre 25, le royaume des cieux sera fait semblable. Et là, il est bien évident que nous avons une scène future, non pas à l'égard de l'Église, il ne s'agit pas de l'Église, mais il s'agit de ceux qui l'attendront demain, dans le cœur desquels le Seigneur aura opéré. Se tourneront vers moi celui qu'ils ont percé. Nous disons encore ceci à l'égard du pardon. Dans le chapitre 34 du livre de l'Exode, où Moïse, au commencement de l'histoire du peuple, peut affirmer que Dieu est un Dieu qui pardonne, grand en bonté, Dieu qui pardonne l'iniquité. La déclaration que Moïse fait dans ce jour-là est émouvante. Elle dépeint, elle souligne le caractère primordial de Dieu, un Dieu qui pardonne. Au commencement de l'histoire de ce peuple, si nous on citait Esdras tout à l'heure, mais si nous voulons citer aussi Néhémie, eh bien, nous sommes au moment du retour de la captivité, et au-delà de toute l'histoire royale de ce peuple, où il était un royaume, et qu'est-ce que Néhémie va dire à ce moment-là? Donc, en 455 avant notre ère, puisque Moïse dit cela des siècles plus tôt. Eh bien, il dira, mais toi, tu es un Dieu de pardon. Faisons grâce et miséricordieux. Malgré l'état du peuple, malgré ce qu'ils ont fait, malgré leur culpabilité, Néhémie, conduit par l'Esprit de Dieu, dit la même chose que Moïse. Dieu n'est pas changé. Nous ne pouvons pas racheter notre pardon. Dieu est bien trop riche que pour vendre son pardon. Et il faut que l'homme y renonce à jamais. L'homme ne peut pas payer à Dieu sa rançon. Mais quel bonheur, chers amis, Nous allons voir dans ce chapitre comment cette grâce de Dieu non seulement déborde Israël, mais est venue jusqu'à nous. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, fin de l'histoire connue du peuple jusqu'en 4 siècles environ avant la venue du Christ, eh bien, le prophète montre encore que Dieu a aimé Israël et qu'il est toujours prêt. S'ils reviennent, Dieu était encore prêt à leur faire grâce. Alors, nous retenons une parole aussi de David, dernier mot que nous citons, dans la détresse où il se trouve. Que faire? David est sans ressources. La folie qu'il a commise, même un homme si peu scrupuleux que Joab lui a dit, mais David, tu fais une grossière erreur. Pour qu'un homme de la trempe de Joab puisse reprendre David, on comprend bien quelle était l'énormité de la faute de David dans ce temps-là, le dénombrement. Cela peut nous paraître un peu accessoire, mais c'était une faute très, très lourde. Et David va dire ceci, avant de m'asseoir aussi, je cite le passage, c'est dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21, il dit, « Et David dit à Gad, le prophète de l'Éternel, le voyant, David dit au chapitre 21 du premier livre des Chroniques, au verset 13, « Je suis dans une grande détresse. Que vais-je faire? Il n'y a pas de sacrifice à offrir. Ma faute est sans excuse. Je dois donc payer toutes les conséquences de cette faute, et cette conséquence de la faute de David, c'était la mort. Je suis dans une grande détresse. » Et il va dire, « Que je tombe, ô Éternel, je te prie dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont très grandes, très nombreuses. » David, qui connaît bien le cœur de Dieu, ne trouve son refuge que sur le cœur de Dieu pour que Dieu pardonne ses fautes. Et comment le fera-t-il? Eh bien, nous savons par l'Épître aux Romains que Dieu l'a fait en relation avec l'œuvre de Christ. Il a exercé son support, il a accordé un pardon anticipé en se basant sur le sang de la croix.
Moïse est là, qu'est-ce que Dieu va faire? Et Dieu va se faire connaître, et se faire connaître comme un Dieu de pardon. Mais mystère, chose incompréhensible. Dans la même déclaration, dans la même phrase, il est le Dieu qui pardonne l'iniquité et en même temps celui qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent. Pour pas comprendre, et Moïse lui-même ne le pouvait pas. Et cela ne se comprendra qu'au moment de la croix, où Dieu a tenu l'innocent pour coupable, pour pouvoir justifier les coupables que nous sommes. Il y a donc là, dans les termes mêmes, un mystère, quelque chose qui ne pouvait pas être compris sur le moment même. Mais c'est très beau de voir Moïse s'emparer de cette déclaration de Dieu. Ne pas s'arrêter à la deuxième partie, qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocence, en quoi le peuple devait être totalement détruit, puisqu'il était coupable. Mais Moïse s'empare de la première partie de la déclaration de Dieu. Il a là une intelligence remarquable. Et que va-t-il faire? Il se hâte. Oh, il se prosterne. Et au verset 9 de ce chapitre 34 de l'Exode, que le Seigneur marche de près au milieu de nous, car c'est un peuple de cour roide. C'est comme pour dire, mais c'est justement, tu as là l'occasion de pardonner. C'est justement ce dont ce peuple a besoin, c'est de pardon. Et il prend dans sa bouche exactement la même expression que Dieu a prise au verset 3 du chapitre 33. Qu'est-ce que Dieu a dit là? Je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple de cour roide, de peur que je ne te consume en chemin. Dieu dit, mais si je marche au milieu de ce peuple rebelle, il est nécessaire que je le consume, car c'est un peuple de cour roide. Et ici, Moïse, avec une intelligence remarquable, vient dire « marche, marche au milieu de nous, car c'est un peuple de courroies, c'est un peuple qui a besoin de ton pardon, et par conséquent, marche au milieu de ce peuple, parce que tu es un Dieu qui pardonne. » On a donc là déjà, avant la croix, une révélation de Dieu, qui ne pourra être complétée que quand l'œuvre aura été accomplie, sur la base de laquelle alors l'iniquité sera pardonnée. Et le coupable pourra être tenu pour, non pas innocent à proprement parler, mais justifié par l'œuvre de Christ. Parce que l'innocent a été tenu pour coupable.
Les différentes considérations de nos frères nous amènent à citer également la circonstance où Moïse intercède pour son peuple lorsqu'ils ont dénigré le pays promis à la suite des propos tenus par les espions. Qu'est-ce qu'il est dit en Nombre 14 ? En Nombre 14, nous avons cette magnifique intercession de Moïse en faveur de ce peuple que Dieu veut détruire. Je ne peux rien avoir à faire avec un peuple pareil. Quant à toi, Moïse, tu seras mis à part, bien sûr, et de toi, je susciterai un autre peuple. Mais ce peuple-là, je ne veux plus en entendre parler, semble dire Dieu. Alors Moïse prend la défense de ce peuple. Mais Éternel, que penses-tu? Mais que va-t-on dire si tu fais quelque chose semblable, si tu extermines ce peuple de dessus la face de la terre? Alors, au verset 17, Moïse, après avoir intercédé pour le peuple, dit « Maintenant, je te prie, que la puissance du Seigneur soit magnifiée, comme tu as parlé, disant « L'Éternel est long à la colère et grand en bonté, pardonnant l'iniquité et la transgression. » Verset 19, pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta bonté, et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Mais quel témoignage magnifique qui est rendu par Moïse à Dieu qui pardonne et qui pardonne abondamment. Tu as toujours pardonné depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à maintenant, pardonne encore. Alors, la réponse admirable du Dieu de toute grâce, verset 20, l'Éternel dit, « J'ai pardonné selon ta parole. » Voilà un beau tableau également, à côté de celui d'Exode 34, un beau tableau d'un Dieu qui pardonne et qui, ensuite de l'intercession de son serviteur, peut dire en quelques mots que chacun peut comprendre, j'ai pardonné selon ta parole. Il magnifie le Seigneur d'une part, et d'autre part, il intercède pour ce peuple. Résultat, de la part de Dieu, mon pardon est là. J'ai pardonné selon ta parole. En effet, comme notre frère l'a dit il y a quelques instants, il faut que nous soyons pénétrés de cette immensité de la grâce et du pardon de Dieu à notre égard, pour qu'alors nous manifestions d'autres sentiments vis-à-vis de nos frères que nous estimons peut-être qu'ils nous ont fait quelque tort. Nous avons beaucoup de peine à pardonner, le tort est très peu de choses à côté du tort qu'on a fait à Dieu, c'est très peu de choses. La somme qui était due par l'esclave au roi était une somme énorme, 1 000 000 francs or. Exactement comment, je ne pense pas qu'on puisse le dire exactement, étant donné les variations du change, mais les 100 deniers, c'était vraiment très peu de choses à côté de ces 10 000 talents. Eh bien, voici que ce roi remet la dette, étant ému de compassion. Il est là, l'esclave, il supplie, non. Le roi est ému de compassion. C'est très beau, chers amis, cette expression au milieu de cette parabole du royaume des cieux. Et lui, étant ému de compassion. Qui dira l'histoire des compassions de Dieu à notre égard, nous, pécheurs, Et à notre égard, nous, pauvres croyants, pauvres témoins de la grâce de Dieu, qui dira en justice, en toute réalité, en toute exactitude, la beauté des compassions de Dieu à notre égard. Les compassions de Dieu sont un sujet qui remplit la parole de Dieu, chacun le sait. Il y a quelques caractères, quatre caractères de ces compassions qui sont mises en évidence, et nous disons cela à la suite de ce que notre frère a dit, en rappelant la grande détresse dans laquelle David un jour s'est trouvé. D'après 2 Samuel 24, déjà, en Chronique 21, David est là en présence du voyant, du prophète de l'Éternel. « Je suis dans une grande détresse. J'ai agi follement », dit-il en 2 Samuel 24. Alors, divers châtiments lui sont proposés. 1, 2, 3. Et David de répondre, « Oh non, c'est pas à moi de choisir. » Il est dans une attitude remarquable de soumission, de confession, de repentance. « C'est pas à moi de choisir un châtiment. » Tout ce que je peux désirer, c'est que je tombe dans les mains de Dieu, car ses compassions sont grandes. Et cela est très beau. C'est tout ce que je peux souhaiter, de tomber entre les mains de Dieu, pas entre les mains des hommes. Les hommes sont brutaux, sont cruels, sont d'une rare méchanceté. Je ne tombe pas dans leurs mains, que je tombe dans les mains de Dieu, car ses compassions sont grandes. Dans le psaume 119, il nous est parlé également de ses compassions, il nous est dit qu'elles sont nombreuses. 2 Samuel 24, en Chronique 21, ses compassions sont grandes. Au psaume 119, dans un verset, sauf erreur 156, il nous est dit ceci. En effet, au verset 156 du psaume 119, « Tes compassions sont en grand nombre, ô Éternel, fais-moi vivre selon tes ordonnances. » Un troisième passage que nous connaissons également et que nous aimons à lire, « Les compassions de Dieu sont incessantes. » Ce que nous trouvons dans ce qu'on a appelé le cœur des lamentations de Jérémie. En lamentation de Jérémie 3, il nous est dit ceci, verset 22, « Je rappelle ceci à mon cœur, c'est pourquoi j'espère, ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas, elles sont nouvelles chaque matin, grande est ta fidélité. » Ses compassions ne cessent pas. Et enfin, dans le livre du prophète Osée, il nous est parlé encore de ses compassions qui sont toujours actives. En Osée 11, que lisons-nous ? En Osée 11, nous lisons ceci au verset 8. « Que ferai-je de toi, Ephraïm ? Comment te livrerai-je, Israël ? Comment ferai-je de toi, comme d'Adma ? Te rendrai-je tel que Tseboïm ? Mon cœur est changé en moi, toutes ensemble, mes compassions se sont émues. » Et dans la fin du chapitre, elle est par là lors des bénédictions que Dieu accordera à son peuple à la fin des jours. Mais, en vertu de ses compassions, mes compassions, toutes ensemble, se sont émues. Voilà, chers amis, quatre caractères des compassions de Dieu. Elles sont grandes, elles sont nombreuses, elles sont incessantes, et elles sont toujours actives. Elles se sont émues en moi, dit l'Éternel. Et alors, nous avons le sujet de l'Épître aux Romains. En commençant la partie des enseignements pratiques de l'Épître aux Romains, au chapitre 12e, il nous est dit, c'est l'apôtre qui parle, « Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, alors, à servir Dieu, que votre vie soit pour, toute votre vie soit pour lui, etc. » Nous connaissons ces enseignements. Mais l'apôtre fait appel aux compassions de Dieu. « Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu. » Qu'a dit un jour Samuel Prodon, dont nous avons cité le nom et qui a été bien connu en Belgique, qui était très lié à notre frère Josué Goret. Qu'a dit un jour Samuel Prodon, parlant de l'Épître aux Romains? Vous voulez savoir ce que c'est que l'Épître aux Romains? L'Épître aux Romains est le livre des compassions de Dieu. Elle est magnifique, cette définition de l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, c'est le livre des compassions de Dieu. Nous connaissons les quatre divisions de l'Épître aux Romains. chapitre 1 à 5, les compassions de Dieu pour justifier l'homme pécheur. Chapitre 6 à 8, les compassions de Dieu pour délivrer le croyant de la puissance du mal, de la puissance du moi. Puis, chapitre 9, 10 et 11, les compassions de Dieu à l'égard d'un peuple rebelle et indocile, compassion dont les résultats seront vus bientôt quand Dieu reprendra ses relations avec ce peuple. Et chapitre 12, jusqu'à la fin, quatrième partie de l'épître, les compassions de Dieu pour nous amener à le servir et à consacrer notre vie tout entière pour lui-même, pour notre Dieu, qui a eu de telles compassions pour nous quand nous étions des pécheurs, morts dans nos fautes et dans nos péchés. Voilà, chers amis, quelques pensées sur les compassions de Dieu dont il est parlé dans notre parabole. Et au milieu de cette parabole, il fait bon lire cela. Cela nous montre tellement, cela définit le cœur de Dieu, les entrailles de notre Dieu. Et le Seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Puis, tout l'enseignement pratique dont nos frères ont parlé, en rapport alors avec un pardon qui doit être accordé à l'un de nos frères, l'une de nos sœurs dans la foi. Nous estimons qu'un tort nous a été fait, ben, nous avons à pardonner. Mais dans le passage de Luc 17 qui a été cité, il est quand même dit dans ce verset 4 de Luc 17, « Je me repens ». Il est ajouté ce que nous n'avons pas dit, « Je me repens ». Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, s'il dit « Je me repens », c'est qu'il reconnaît. C'est comme s'il disait « Ah, j'ai mal fait. Ah non, j'ai pas été convenable à ton égard. Non, non, c'est vrai, j'ai tenu des propos et je comprends maintenant qu'ils aient pu te blesser. J'ai mal fait. » Il y a quand même une confession exprimée par ces mots « Je me repens ». « Je me repens ». Et il nous semble que il importe que pour qu'un pardon puisse être librement et pleinement accordé, un pardon fraternel, il importe qu'il y ait quand même ces mots, bien entendu, sortant de notre cœur. Écoute, mon frère, c'est vrai, je t'ai fait du tort, je me repens. Et alors, le pardon est accordé. Vous ne pensez pas, hein? Il me semble qu'il y a une pensée extrêmement pratique et en même temps très belle dans ces simples mots, un frère qui vient vers un autre frère, je me repens.
Il y a un échange entre les deux frères, et les relations sont retrouvées. Mais s'il n'y a pas cette repentance, les relations ne peuvent pas être retrouvées. Et on ne pourra pas jouir ensemble du Seigneur, jouir ensemble de la communion avec le Seigneur. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, le dernier verset du chapitre 4, le verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. » Nous avons vu que le roi, le maître, avait eu compassion de son esclave. On a lu ces passages qui parlent de la bonté de Dieu. Quand Moïse parle à l'Éternel, rappelle sa bonté. Eh bien, quels vont être nos caractères entre nous, la bonté et la compassion? Vous pardonnant les uns les autres comme aussi Dieu vous a pardonné en Christ. Ça veut dire que c'est un pardon sans limite. Souvent, une des grosses difficultés qu'on a, je crois qu'on le réalise tous, c'est pardonner, d'accord, mais oublier. Quand notre Dieu nous a pardonné, il nous dit « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je ne m'en souviendrai plus. » Et il ne viendra jamais nous le dire. Tu te souviens ce péché que tu as commis tel jour et que tu as confessé? Un péché que nous avons confessé, un péché qu'il nous a ainsi pardonné, je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Bien sûr, vis-à-vis de notre Dieu, si quand nous avons péché, si nous n'avons pas confessé ce péché, il n'y aura pas de communion. La communion sera interrompue entre notre Père et nous. Nous ne pourrons pas jouir de son amour. Et dans notre passage ici, quand il est dit que votre Père céleste vous fera si vous ne pardonnez pas, Bon, bien sûr, il y a le côté vis-à-vis d'Israël, et ce côté qui fait que Israël a refusé le pardon de Dieu, et il va connaître la grande tribulation, il va connaître des épreuves sans nom à cause du fait qu'il a refusé le pardon de Dieu. Mais nous ne pourrons pas jouir du pardon de notre Dieu si nous ne pardonnons pas nos frères. Dans le livre, dans le passage de Luc 17 qu'on a lu tout à l'heure, il faut voir aussi dans l'ensemble du chapitre. Dans la suite de ce chapitre, de Luc 17, il est question de la foi, il est question de l'obéissance, et il est question de l'humilité vis-à-vis du Seigneur. Mais avant de nous parler de foi et d'œuvre de foi, avant de nous parler de service et d'obéissance, avant de nous parler de notre service humble pour lui, le Seigneur nous parle d'abord du pardon vis-à-vis des autres. Ça veut dire que pour vraiment servir le Seigneur, pour vraiment connaître une vie de foi heureuse avec lui, il faut qu'il y ait dans notre cœur ce pardon partagé, si on peut dire. Un autre passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, au verset 24, il est question de la prière. Marc 11, 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et il vous sera fait. » Ça, c'est la foi que l'on entière dans notre Seigneur. Mais il faut lire la suite. « Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes. » Il s'agit de prier, de s'approcher de notre Père. Et si nous avons dans notre cœur des racines d'amertume, s'il y a un refus de pardon vis-à-vis de notre frère, eh bien, nous ne pourrons pas jouir du pardon de notre Dieu. Nous ne pourrons pas nous approcher vraiment de Dieu dans la prière. Et il n'y aura pas cet échange entre notre Père et nous. Un échange heureux, parce qu'il y a dans notre cœur quelque chose qui ne va pas, vis-à-vis de nos frères. Et l'absence de pardon, les uns vis-à-vis des autres, il y a bien sûr l'absence de repentance de quelqu'un, d'un frère vis-à-vis d'un autre, mais aussi l'absence de pardon dans notre cœur, c'est quelque chose qui peut arrêter toute une vie chrétienne. C'est quelque chose qui peut arrêter toute une croissance. C'est quelque chose qui arrêtera un service. C'est quelque chose qui enlèvera la puissance dans le service. C'est quelque chose qui empêchera une vraie vie de prière avec le Seigneur. C'est quelque chose qui sera un poison dans notre vie. C'est quelque chose qui sera une racine d'amertume qui pourra grandir et troubler les autres et troubler dans l'assemblée. C'est pour ça que ces versets que nous avons, que nous lisons actuellement, sont tellement importants et tellement pratiques pour notre vie. Et nous devons toujours nous rappeler la fin de ce passage quand il est dit « Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, non pas un petit pardon du bout des lèvres, non pas une affaire que l'on règle extérieurement, mais une affaire qui va être réglée dans notre cœur et dont on ne reparlera pas. On ne reviendra pas 15 ans après en disant « Tu te souviens de cette histoire ?» On ne reviendra pas pour en reparler et recommencer quelque chose, mais quelque chose qui sera vraiment pardonné, comme aussi Dieu nous a pardonné en Christ, de la même manière et en ayant les mêmes sentiments. Bien sûr, ça c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire tout seuls, mais si nous avons compris quelle est l'immensité de la grâce de Dieu pour nous, si nous avons compris quelle est l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, qui a donné son Fils pour nous, qui a tout fait pour nous, alors si nous avons saisi un tout petit peu cela, nous pourrons comprendre ce que c'est que le pardon de Dieu pour nous, et puis le pardon que nous pourrons avoir l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis si nous avons fait du tort à notre frère, alors nous souvenons de ce que le Seigneur a souffert pour nous, nous saurons aussi nous approcher de notre frère pour lui dire « Je me repens », pour rechercher la communion à nouveau ensemble, pour qu'ensemble nous puissions aller encore en avant avec le Seigneur. Une expression dans ce passage qui revient sans arrêt. Il était un esclave. Il avait un roi sur lui, un maître. Et il a affaire à quelqu'un qui était un esclave avec lui. Deux esclaves avec un même maître. Un esclave qui était avec lui. Un esclave qu'il aurait dû aimer, ils étaient dans le même état. ils avaient des relations ensemble vis-à-vis du même maître. Et cette expression revient au verset 29. Celui donc qui était esclave avec lui se jetant à ses pieds et le supplia. Il y avait d'abord au verset 28, il trouve un de ceux qui était esclave avec lui. Et puis celui-là, il vient à ses pieds, il le supplie. Il fait ce que lui avait fait plutôt vis-à-vis de son maître. Et puis, plus loin, il y a ceux, les autres, qui étaient aussi esclaves avec lui. Ça veut dire qu'il y a, quelque chose qui s'est passé entre ces deux esclaves, mais les autres esclaves en sont troublés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les autres esclaves? Est-ce qu'ils vont essayer de régler le problème entre eux? Est-ce qu'ils vont aller chercher celui qui a fait du tort à l'autre? Est-ce qu'ils vont essayer d'arranger les choses? Non, ils vont en parler au maître. Les autres esclaves vont prier pour lui, vont prier pour cette difficulté entre frères. Et dans quel esprit vont-ils le faire? En étant extrêmement affligés, en ayant le cœur saisi par cela. Comment cela est-il possible? Comment cela peut-il se faire que un de nous qui avait, nous étions tous en dette vis-à-vis de notre Dieu, comment cela est-il possible qu'il y ait un tel esprit entre deux esclaves? Entre deux esclaves, non pas l'un au-dessus de l'autre, ou l'autre au-dessous, mais deux esclaves qui étaient ensemble. En étant extrêmement affligés, on s'approche du maître et on vient lui parler de cela. Et le maître, quand il va parler à l'esclave impitoyable, il va lui parler de son frère en lui disant « Tu aurais dû avoir pitié de celui qui est esclave avec toi. » Et dans la manière dont les choses nous sont présentées, le Seigneur nous dit « Vous êtes tous au même niveau. » Il avait une dette vis-à-vis de l'autre, c'est sûr. C'est vrai, personne ne la discute, cette dette. Mais ils étaient au même niveau. Celui qui avait la dette n'était pas au-dessous de celui à qui il devait quelque chose, et celui à qui il devait quelque chose n'était pas au-dessus de lui. Il n'avait pas des droits sur son frère. Par contre, le maître, lui, avait des droits sur ses esclaves. Et notre Seigneur a des droits sur nous.
On nous a rappelé tout à l'heure les beaux passages dans lesquels il est question des compassions de Dieu. Nous voudrions ajouter, puisque nous les trouvons dans l'Évangile, l'expression des compassions du Seigneur. Il ne s'agit pas du pardon des péchés, mais de la compassion, de la pitié envers ces foules auxquelles le Seigneur avait affaire. On trouve cela dans les deux multiplications des pains. Nous avons respectivement au chapitre 14, verset 14, et au chapitre 15, verset 32. Il nous est dit, étant sorti, Matthieu 14, 14, il vit une grande foule et il fut ému de compassion envers eux. Au chapitre 15 et au verset 32, et Jésus ayant appelé à lui ses disciples, dit, je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Et puis nous l'avons dans d'autres occasions, par exemple, en Marc 9, 23, à propos de ce père éploré qui vient demander l'assistance pour la guérison de son fils. Si tu peux quelque chose, et Marc 9, verset 23, verset 22, mais si tu peux quelque chose, assiste-nous étant ému de compassion envers nous. On trouve donc cette expression à propos du Seigneur Jésus lui-même, et ça nous rappelle ce cœur plein d'amour qui se penche sur nos misères, non seulement le triste état de l'homme, mais son état moral, son besoin qu'il a de pardon. Et alors, il y a repentance. On peut bien lier cela à ce qui a été dit tout à l'heure, n'est-ce pas, que si nous avons à pardonner comme Dieu nous a pardonné, eh bien, le pardon que Dieu nous accorde, il est lié à quoi, si ce n'est à la repentance, à la confession des péchés. On reconnaît son état devant Dieu, qui ne demande pas plus et qui pardonne. Il est souhaitable, évidemment, que dans nos relations fraternelles, on l'a entendu, le pardon ne soit pas à sens unique, mais il y a, alors, si on sait faire la démarche, et si on se met soi-même au pied de son frère, et qu'on reconnaît, en premier lieu, les torts qu'on a pu avoir dans la... la difficulté qui a surgi entre nous, eh bien, c'est le moyen de gagner son frère. On commence par cela, par se mettre à ses pieds. Alors, le frère gagné viendra lui-même avec la repentance qui permettra d'accorder ce plein pardon. Le Seigneur nous donne à tous, nous avons peut-être les uns ou les autres des contentieux, on vient de l'entendre dans notre vie, des contentieux, c'est-à-dire ces problèmes sur lesquels on laisse passer des jours, des mois, des années, et puis on sait, voilà, ce frère-là, je n'ai pas de communion avec lui. Alors on ne se parle pas, on accumule des griefs, puis on en arrive quelquefois à se taire dans l'assemblée, on se dit, je garde le silence puisque c'est comme ça. Et cet état de choses pèse, non seulement sur les frères concernés, ou les sœurs concernées, mais sur l'assemblée tout entière. On voit avec quel soin Paul à Philippe s'occupe de deux sœurs qui avaient aussi, elles, un problème entre elles. Je te supplie, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi pour l'Évangile. Elles avaient combattu, il y avait eu un service, apparemment ce service était interrompu, et ces deux sœurs, elles, il y avait un conflit latent entre elles, et puis Paul s'en inquiète pour le bien de l'assemblée de Philippe, que cet état de choses puisse trouver sa fin.
Un mot encore, précisément en rapport avec la vie d'assemblée, tandis que nous arrivons au terme de notre réunion. Est-ce qu'il n'est pas remarquable de penser que ce court verset, qui est d'une importance telle, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et ce principe de base du rassemblement des enfants de Dieu au nom du Seigneur Jésus est énoncé à la suite de la prière, à la suite d'être d'accord pour telle ou telle chose. Je vous dis encore, si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, eh bien, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. N'est-il pas remarquable alors de considérer l'encadrement moral exposé dans tout ce chapitre concernant ce simple verset, par ailleurs si important? Notre frère en a parlé au début de la réunion, c'est vrai, mais il vaut la peine de nous arrêter à cela. Tout d'abord, devenir un petit enfant. Devenir un petit enfant. On ne saurait faire partie de l'assemblée de Dieu si l'on n'est pas devenu un jour un petit enfant, ce qui est le point de départ de notre vie nouvelle, ce qui est la signature de notre conversion. Si vous ne vous convertissez pas, dit le Seigneur Jésus. Donc, devenir comme un petit enfant, c'est la chose première, indispensable. Ensuite, ne pas mépriser un petit enfant. Nous avons aussi un témoignage à rendre à cet égard vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis du petit enfant. Dieu n'accepte pas que nous nous amusions ou que nous plaisantions au sujet d'un petit enfant. C'est mépriser le petit enfant. Nous n'avons pas à mépriser un petit enfant, encore moins à le scandaliser. Voilà ce que nous avons dans le début de ce chapitre 18. Ensuite, la pensée d'aller trouver son frère, la pensée du pardon accordé, et enfin, cette prière ensemble, si deux d'entre vous sont d'accord. Il n'est pas dit, chers amis, lisons toujours la parole avec exactitude, il n'est pas dit si deux d'entre vous se sont mis d'accord. La parole de Dieu ne connaît pas ça. Avant une réunion de prière, je ne vais pas vers un frère, dis donc, tu es d'accord, on va prier pour ceci ou pour cela. Si on faisait cela certainement frapperait et choquerait beaucoup d'entre nous. Que dit le Seigneur si deux sont d'accord? Pas se sont mis d'accord. Ils sont d'accord. Pourquoi? Parce que l'accord n'est pas créé par mon frère ou par moi-même, il est créé par le Saint-Esprit lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui crée cet accord. Alors voilà tout ce que nous avons avant ce verset 20, et ensuite alors le tableau de cet immense pardon de Dieu qui doit être l'exemple parfait pour nous quant au pardon à accorder à un frère. Alors une telle vérité doctrinalement parlant, si important, le rassemblement des enfants de Dieu autour du Seigneur Jésus, si deux ou trois d'entre vous sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux, et chacun connaît la structure de ce remarquable passage, où, en le divisant en sept parties, ce n'est pas un petit jeu de l'esprit, d'ordre intellectuel, pas du tout, mais divisant ce passage en cette partie, on voit que d'après la pensée de Dieu, en rapport avec ce rassemblement, l'énoncé de ce rassemblement, tout est divin. Tout est divin. Voilà pourquoi nous devons avoir une sainte frayeur d'introduire quoi que ce soit d'humain sur un tel terrain, le terrain du rassemblement autour et au nom du Seigneur. Et en pensant à cela, nous apprécierons d'autant plus un tel rassemblement. Devenir un petit enfant, ne pas scandaliser, ne pas mépriser un petit enfant, accorder ce pardon à notre frère, prier ensemble, étant d'accord, parce que l'Esprit Saint a établi un tel accord. Puis voilà le principe fondamental du rassemblement des enfants de Dieu au nom du Seigneur. Et à la suite encore, le Seigneur revient sur la pensée importante du pardon. Il y a des caractères moraux d'une telle importance que cela doit nous amener à considérer combien est important certainement, mais solennel en même temps que ce principe du rassemblement autour du Seigneur et au nom du Seigneur. Il y a là tout un ensemble d'enseignements très pratiques concernant précisément un tel rassemblement. Et il vaut la peine de souligner, des frères l'ont fait bien avant que nous-mêmes qui en parlons aujourd'hui, bien des frères l'ont fait, ont souligné cela, ont écrit à cet égard, ont fait ressortir tous ces caractères moraux qui sont en eux-mêmes très simples, chacun comprend, il n'y a pas besoin de recourir à des ressources intellectuelles particulières pour comprendre tous ces enseignements de Matthieu 18. Et au milieu, nous avons cette vérité. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
Seulement un dernier mot. Il est évident que l'enseignement est de la plus haute importance et pour souligner son effet pratique, remarquons que le Seigneur parle au singulier d'un esclave. Première chose. Deuxième chose que nous faisons remarquer, c'est que Paul rappellera l'animosité des Juifs, que nous trouvons ici dans la parabole. Nous ne pouvons pas tout expliquer dans les détails de la parabole, il ne faut pas vouloir expliquer tous les détails, mais l'enseignement est très clair. Et Paul dira à l'égard des Juifs et à l'égard des gentils tout ce qu'il a souffert. Il rappelle dans la deuxième à Timothée, à la fin de sa vie, ou dans la dernière lettre, il va rappeler les persécutions qu'il a subies dès le commencement de son ministère. C'est très remarquable. Donc, l'esclave juif s'est rué sans ménagement contre Paul parce qu'il a annoncé l'évangile aux nations. Tu sais, ma patience, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, Iconium, Lystre, etc. Alors, ça c'est un fait établi. La conséquence, on l'a déjà cité tout à l'heure, dans la première aux Thessaloniciens, Paul montre quel sera le sort réservé aux Juifs. Que la colère de Dieu menace, elle est venue sur eux au dernier terme. Et évidemment, la réalisation de cela aura lieu bientôt lorsque Titus va faire le sac de la ville. Enfin, cela c'est à l'égard des Juifs et à l'égard des nations. Dans la seconde aux Thessaloniciens, les croyants à Thessalonique souffraient de la part de leurs propres compatriotes. Et de la même manière, le jugement tombe sur ceux qui font subir la tribulation et le Seigneur descendra sur eux en flamme de feu.
Enfant de Dieu.